Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler bouquin avec un livre qui vient de sortir. Ça s'appelle Justice et Respect. Ça s'appelle Le soulèvement des gilets jaunes. On en parle juste après le générique. Pour m'accompagner ce matin, deux invités, j'ai avec moi Brice Le Gall et Thibaut Ciseau. Bienvenue, bienvenue sur les ondes de Graphite, bonjour.
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 Vous êtes les deux co-auteurs, enfin il y a un troisième co-auteur du livre qui s'appelle Lou Traverse, c'est bien ça?
Ouais,
je me trompe pas
ça,
déjà pour
Lou
commencer.
Ouais.
On va parler un petit peu de ce bouquin, Justice et Respect, le soulèvement des gilets jaunes. Qui êtes-vous déjà pour commencer?
Thibaut.
Allez, c'est parti. Moi je suis sociologue de formation. À côté de ça, j'ai été enseignant vacataire et avec Brice, on se connaît depuis pas mal de temps et on avait déjà bossé un peu ensemble il y a une dizaine d'années. Et là, voilà, on s'est retrouvé autour d'un projet un peu plus long et voilà, sociologue de formation, on va dire.
Brice, toi voilà. Pas sociologue, plutôt photographe?
Alors sociologue aussi, hein. En fait, je termine une thèse en sociologie, en socio-histoire. Et Lou, pour sa part, elle est sociologue également de formation et elle bosse dans le travail social actuellement.
Alors du coup, c'est ce qui vous a réuni, la sociologie. Qu'est-ce que c'est la sociologie pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est comme science?
Alors,
c'est dur à définir. Hein.
Ouais, c'est difficile. La sociologie, oui, c'est tout ce qui porte... aux mécanismes de fonctionnement du monde social. Donc ça touche à des sujets extrêmement généraux sur le fonctionnement des classes sociales, le rapport à la politique. Bon, y a les mobilisations sociales. On fait de la sociologie de tout, à peu près de tout. Bon, et nous, je pense qu'il nous a réunis...
C'est l'étude des humains et de son fonctionnement, un petit
peu. C'est l'étude des humains et de son fonctionnement, voilà, et de leur fonctionnement. Nous, on fait de la sociologie dans une perspective un peu critique, un peu politique. Enfin, on essaye de rendre la sociologie un peu utile aux gens qu'on suit. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé notamment à travers ce projet de bouquin, quoi.
C'est presque un travail journalistique. Du coup, il y a un angle, on pourrait dire ça. En sociologie, ça existe, l'histoire des angles, comme dans le journalisme?
Des angles, oui, il y a une approche, on pourrait comparer ça par moment à un travail journalistique au sens où on fait un travail de terrain, où on passe du temps à rencontrer du monde. Mais ce qui est différent et ce qui est très différent, c'est pour le coup, là, on a une démarche, nous, assez inductive, on va dire, où on commence un terrain d'enquête sans trop savoir où on va et puis on se laisse un peu porter par les choses et on prend le temps aussi. Et je pense qu'une définition de la sociologie pour faire une enquête de terrain, c'est savoir et apprendre à perdre son temps. Et je pense que nous, on se retrouve aussi là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on regarde pas notre montre et on se laisse un peu porter par les événements et par les gens que l'on rencontre. Et on n'a pas on n'a pas un objectif de rentabilité du papier, contrairement aux journalistes, où c'est sûr que là, on fait ce qu'on veut et à l'heure qu'on veut, quoi. Voilà.
Est-ce que c'est un petit peu les sociologues qui vont écrire l'histoire ou une certaine forme d'histoire?
C'est les sociologues qui écrivent l'histoire avec les gens qui sont sur le terrain.
Ou retranscrivent alors l'histoire, plutôt l'histoire qui se déroule, ou par rapport aux historiens?
Je pense que c'est un des enjeux du livre qu'on a eu, c'est que... Le mouvement était vécu comme quelque chose d'historique, en fait, par nombre de gilets jaunes. Et nous, il y a aussi une dimension proprement documentaire de laisser une trace, en fait, de rendre compte, en même temps que de rendre justice à ces personnes mobilisées. Et donc, oui, il y a une perspective qui est clairement documentaire, archivistique, de l'ordre de l'historien, en fait, et à laquelle sert la photographie, notamment.
Aujourd'hui, justement, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, de la vidéo, pourquoi avoir choisi ce médium du livre et du papier et pas d'avoir fait un documentaire filmé ou autre chose, de quelque chose de plus mouvant?
Alors, pour des questions de compétences, je pense, d'abord, en fait. Je ne suis pas vidéaste, c'est vraiment des compétences spécifiques. Donc nous, on a utilisé ce qu'on savait faire, quoi. On sait faire de la sociologie, on sait faire de la photographie, et on a essayé de combiner au mieux avec effectivement l'importance de l'entrée par l'image qui peut permettre, je crois, de parler au plus grand monde. Et ça, pour nous, c'était important qu'il y ait différentes entrées pour accéder à ce bouquin, parce qu'on on essaye d'être accessible en fait à notre public.
Ouais, c'est, et puis il faut quand même souligner l'importance de la photo au départ de l'enquête. Ça nous a permis aussi de rencontrer du monde. C'est-à-dire que les gens au départ, ils nous connaissaient pas, et c'est normal, ils pouvaient être méfiants. Et le fait qu'ils aient eu très vite accès en fait à certaines photographies et au type de photos qui étaient faites, ça a aussi permis à ce qu'on rentre en contact beaucoup plus facilement par la suite en fait. Ils ont vu qu'on n'était pas là pour se servir d'un mouvement pour se faire mousser ailleurs, mais qu'on était là aussi pour servir le mouvement, et parce qu'aussi nous-mêmes on y croit, quoi.
Puis il y a une démarche artistique quand même, les photos sont très jolies, sont très bien faites, il y a un choix du noir et blanc. Pourquoi le choix du noir et blanc, c'est bizarre, parce qu'aujourd'hui quand on prend les historiens avec genre 14-18 ou 39-45, on colorise l'histoire pour qu'elle nous paraisse plus récente, ouais. Et là c'est l'inverse, on utilise le noir et blanc.
C'est vrai, il y a plusieurs raisons à l'usage du noir et blanc. Il y a un aspect, justement, essayer de renforcer la dimension historique de l'événement, même si, effectivement, comme tu le soulignes, aujourd'hui, on colorise. Il y a une nécessité pratique qui est que la photographie en noir et blanc permet d'aller à l'essentiel, en fait. Paradoxalement, on perd de l'information. En même temps, on guide mieux le regard. Donc, il y a ça, une efficacité. Et puis après, bon, c'est plus des enjeux personnels, enfin, moi, me concernant, sur la beauté de la photographie.
Tu avais une formation artistique de photographe?
Alors, ou... Moi, je suis autodidacte, mais je la pratique depuis une quinzaine d'années de façon assez intensive, quoi. Et notamment, j'essaye de suivre les mouvements sociaux et effectivement, j'utilise systématiquement le noir et blanc dans le cadre de ces images-là.
Là, c'est du coup, sur les photos, c'est du numérique ou c'est de l'argentique?
Alors, c'est du numérique, mais qui est post-développé avec des logiciels qui permettent d'avoir des rendus proches de l'argentique, justement.
Et les tirages qui ont été faits, qui ont été réalisés, qui sont disponibles?
Oui, tout à fait. Enfin, pour ça, il faut contacter l'auteur.
Vous avez vendu des photos pour la presse ou pour les magazines?
Alors, c'est très très dur, là, le métier.
Il faut rentrer par une agence, peut-être?
Alors, oui, on peut essayer de survivre à peu près dans les agences de photographie, mais c'est très très dur à l'heure actuelle. Moi, je travaille pour les associations essentiellement, en fait. Il y a les associations qui ont un peu d'argent, qui peuvent payer, mais sinon, ça reste de la vente assez occasionnelle à des particuliers.
On rappelle le nom du livre, puisque je l'ai écorché en début d'émission, ça s'appelle Justice et Respect, le soulèvement des gilets jaunes. C'est aux éditions Sileps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce nom d'édition? Comment vous l'avez trouvé, votre éditeur?
Vas-y Thibaut, je t'en prie.
Comment on l'a trouvé, cet éditeur?
Vous l'avez créé ou c'est un vrai éditeur?
Non, c'est un vrai éditeur en chair et en os. Ils sont à rue des Rigoles à Paris. Il y a un salarié et ils sont bénévoles pour la plupart. Comment on les a trouvés? Moi, nous, avec Brice, c'est une édition qu'on connaît parce qu'ils éditent beaucoup d'universitaires déjà. Donc, nous, on connaît par nos petits milieux parisiens. Mais après, moi, il y a un an, j'ai vu qu'ils avaient édité un photographe qui avait fait un reportage photo sur les émeutes de Baltimore en 2015. Et avec Brice, on avait trouvé ça, pas grandiose, mais on avait trouvé qu'il y avait un truc à faire, quoi, peut-être avec cet éditeur, parce qu'il avait osé, entre guillemets, publier un photographe qui faisait du noir et blanc aussi. Voilà, donc c'est parti de là, on a contacté Sileps, et puis avec Lou et Brice, on est parti voir Sileps en direct.
Et c'est quoi? C'est au fur et à mesure, comment ça s'est déroulé dès le début? D'ailleurs, comment ça s'est déroulé la première rencontre avec les Gilets jaunes, déjà, pour commencer? C'était le premier rassemblement, le premier c'était des blocages.
Avec les Gilets jaunes, moi j'ai commencé sur le 17 novembre sur le périph' parisien, en fait. Et c'est au bout d'une quinzaine de jours qu'on a vu que c'était vraiment un mouvement décentralisé, qui n'était certainement pas un mouvement parisien, urbain, de classe sup, et qu'on est parti dans l'Oise avec Thibault. Alors pourquoi l'Oise, il peut sans doute répondre comment ça s'est fait, mais rencontre avec Gaylor et les autres Gilets jaunes.
Oui, on a. En fait, Brice, c'est vrai que Brice avait commencé le travail de photo sur Paris et pour le coup, il était. Moi, j'étais dans les cortèges parisiens, mais on n'était pas du tout ensemble sur le terrain. Et c'est vrai qu'au bout de 15 jours, avec Brice, on a échangé les 15 premiers jours, on se demandait ce qui se passait. Et il y a un samedi, c'était 8 décembre, après la manif, il était 18h, on s'est dit, il se passe quelque chose auquel samedi, mais c'est pas possible autrement, il doit y avoir quelque chose de fort qui doit tenir et se mettre en route quelque part, quoi. Et l'Oise, c'est venu parce que moi, j'ai un peu de famille dans l'Oise. Et donc, j'ai passé 2-3 coups de fil vers 18h le samedi 8 décembre et pour savoir où est-ce qu'il y avait des cabanes, sur quel rond-point et où. Et donc, à 20h, on était au courant où est-ce qu'il y avait des cabanes. Et donc, on a pris la voiture à 21h et on est parti à Chevrières ce soir-là. Voilà. Et on a rencontré... Jessica, Gaylor, Patrick, Jean-Claude, Romain et Alex, ce soir-là, ce premier soir. Voilà.
Qui étaient gelés dans leur cabane, sous la pluie, dans la boue.
Qui étaient emmitouflés.
Ont fait un super accueil.
Voilà.
C'est vrai qu'on a un peu suivi aussi, le mouvement des Gilets jaunes, notamment sur l'autoroute à la 1 de l'autre côté.
Vers Arcy.
À vers Arcy, ouais, vers Resson-sur-Mar. C'est vrai qu'il y a des jours, franchement, il faisait vraiment très très froid. Il reste toute la journée, c'était assez physique. Quoi. Et du coup, par rapport à ça, vous avez contacté l'éditeur en même temps ou comment ça s'est...
Non, alors le projet de faire un livre sur les Gilets jaunes est venu assez tard, en fait, et notamment parce qu'on a été poussé par les Gilets jaunes de l'Oise en particulier, qui se sentaient effectivement soutenus par les images, et l'idée est venue surtout d'eux-mêmes, en fait. Donc c'est très tard, c'est vers le mois de mars, avril, qu'on a commencé à contacter des éditeurs et que l'idée de faire un bouquin est... Mais à la base, on n'avait pas du tout l'ambition de faire un énième livre sur le mouvement social. Et on s'est dit que s'il faut sur ce mouvement, et s'il faut en faire un, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'il soit particulier, quoi. Qu'il ne soit pas un livre d'universitaire pour universitaire, quoi.
Voilà. On a commencé... En fait, c'est vrai qu'on n'était pas... Les premières photos que Brice a faites sur le rond-point de Chevrières, début décembre, elles ont été faites dans l'optique de notre... Enfin, c'était vraiment pour nous-mêmes nous informer de ce qui se passait. Et après, d'avoir même pour nous une compréhension du mouvement. C'était pas du tout derrière avec l'idée de produire quelque chose. Et Brice a fait quelques clichés de Chevrières et à partir de ces premiers clichés, en fait, on a réfléchi sur chaque photo à quel titre on pourrait mettre, en fait. Et c'est parti de là. On a commencé à bosser sur les premières photos de Chevrières une semaine après. Puis on mettait des titres sur chaque photo avec des petites légendes. Et puis après, de fil en aiguille, on a rencontré les gens. On a été sur le rond-point, on y est retourné. Et puis on a commencé à passer du temps avec eux. Et puis c'est là qu'on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose de tout ça, quoi. Mais ce n'était pas du tout pensé au départ.
Il n'y a pas que des photos, hein. Il y a également il y a des interviews, il y a des rencontres, il y a aussi toute l'historique un petit peu de ces journées. Vous les avez écrits au fur et à mesure, c'est venu après. Comment on fait une photo et ensuite on va revoir les gens? Comment ça se déroule pour ce genre de choses? C'est quoi le plan?
Ah, c'est très compliqué le plan. Il y a une logique chronologique qu'on essaye de restituer en partie dans le livre, mais c'est du bricolage, en fait, hein, entre il a fallu faire énormément d'allers-retours sur le terrain. On a pu accéder aux familles de Gilets jaunes, faire des entretiens chez eux à certains moments. Ce n'était pas forcément possible dès le début, forcément. Il faut que la confiance se noue avec nos collègues Gilets jaunes. Donc c'est du bricolage, la construction du plan. Et c'est vraiment un aller-retour permanent entre nous, nos lectures, le travail aussi intellectuel qui s'élabore, le matériel photographique et les données qu'on peut produire avec les Gilets jaunes, quoi.
Là, les interviews, c'est de l'audio ou c'est vous avez tout gratté sur des carnets?
Non, c'est de l'audio. C'est enregistré systématiquement. Ouais. Ça, c'est des réflexes de sociologue, en fait. Hein. On a quand même un guide d'entretien et puis avec des hypothèses, on sait sur quel sujet il faudrait faire parler la personne pour peut-être avoir des éléments intéressants, enfin qui permettent de comprendre son engagement. Et donc, on arrive, on enregistre et puis on discute, quoi.
C'est quoi la première chose qui vous a un peu surpris quand vous êtes arrivé, que vous les avez rencontrés? À part le froid et la température. La résilience à la température.
Oui, mais en même temps, bon, on rigole sur la température, sur l'aspect géographique des choses et tout, mais c'est important. Et nous, ça, par exemple, ça nous a paru très important et on s'était dit, même avec Brie, je me souviens, au bout de 15 jours à passer du temps là-bas, on s'est dit, mais on va revoir les fleurs pousser sur le rond-point, on verra le printemps. On a senti une détermination vraiment extrêmement forte et... la neige et le froid, à la limite, hein, passons. Il faut aussi rappeler qu'il y a des gilets jaunes qui se chauffaient pas, certains chez eux, ils pouvaient pas payer le fuel. Donc d'aller sur le rond-point avec des amis et autour du bras zéro, c'était beaucoup plus sympathique aussi, beaucoup plus chaleureux. Donc l'histoire de la température, ça joue, mais bon, en même temps, bon... Oui.
Il y en a qui ont dormi quand même, il y en a qui ont dormi sur place.
Oui, bien sûr.
Toute une vie qui s'est mise en place.
Mais il y a eu un élan de solidarité et puis il s'est passé quelque chose de très fort dans certains collectifs qui fait que bon bah ça a tenu et bon voilà, on allait au-delà des températures négatives quoi. C'était pas.
Au début du mouvement, une absence totale d'engagement politique de la part des Gilets jaunes. On a l'impression que c'était souvent des retraités qui avaient jamais manifesté. Des gens un peu oubliés en fait, qu'on ne voyait pas forcément dans les médias par exemple.
Oui, alors c'est sûr hein, qu'ils font partie pour leur grande majorité des classes populaires invisibilisées médiatiquement, politiquement, qui souvent se sont désengagées du jeu politique partisan, enfin traditionnel. Mais voilà, enfin toute cette mobilisation justement, enfin permet de comprendre l'ancrage profondément politique, les revendications profondément politiques en fait, de ces personnes. Juste un tout petit ajout en fait, pour rebondir sur ce que disait Thibault. Cette détermination des Gilets jaunes effectivement, qui nous a frappés en fait, hein, et qu'on peut encore observer aujourd'hui, puisque le mouvement continue. Moi, ce qui m'a énormément frappé en faisant des entretiens, c'est la détermination de ces gens et les combats qu'ils mènent au jour le jour, dans leur vie quotidienne en fait. Si vous voulez, nous en sociologue, on connaît les effets du néolibéralisme de façon théorique. Bon, bah là, on les a vus dans des corps, de façon incarnée, dans des mots. Et on voit ces gens lutter au quotidien. Voilà, les mères célibataires qui galèrent avec leurs enfants, qui se battent pour essayer d'avoir un emploi pas trop pénible, pas trop difficile. Les personnes qui ont eu des accidents du travail. Enfin, tous ces gens qui mènent des combats quotidiens dans leur vie ordinaire. Bon, voilà, ça nous a permis d'incarner un peu aussi les effets très concrets que peut avoir le néolibéralisme sur la vie de ces gens. Et leur formidable combativité.
C'est un peu le lumpen prolétariat moderne ou pas? Est-ce que ça peut être une espèce de sous-prolétariat qui n'a pas de conscience de classe?
Oui, alors la question de la conscience de classe, c'est compliqué, mais en tout cas, oui, la dimension lumpen prolétariat, il y a énormément de travailleurs pauvres parmi les Gilets jaunes, des travailleurs pauvres, des personnes durablement exclues du marché de l'emploi. C'est des classes populaires, souvent très précarisées, même s'il y a différentes fractions. Justement, alors sur cette question de la conscience de classe, sans doute qu'elle ne prend pas la forme d'une lutte des classes traditionnelle, telle que les militants l'envisagent habituellement, en tout cas la petite bourgeoisie culturelle militante. Mais en même temps, ce qui s'est exprimé sur les ronds-points, c'est bien une forme de conscience sociale très aiguë, notamment contre les élites, contre le monde des riches et contre les élites politiques, certaines élites politiques. Et ce qu'il y a eu de très beau, il me semble, sur les ronds-points, au moins pendant un certain temps, c'est cette neutralisation des oppositions entre les différentes fractions de classe populaire. Si vous voulez, le clivage entre le français dit de souche et l'immigré, bon, bah, c'est un truc qui a été neutralisé. Entre l'assisté et puis l'ouvrier établi, ça s'est neutralisé. Et donc, ce qu'on a vu à l'œuvre, c'était au contraire une prise de conscience très forte du fait qu'ils avaient des intérêts en commun. Ces classes populaires ont des intérêts en commun et elles ont su les neutraliser par plein de mécanismes, en fait.
Vous l'expliquez, vous, est-ce que c'est l'arrivée de Macron? Est-ce que c'est l'ère du temps? Est-ce que c'est la politique de ces 30 dernières années, 40 dernières années? Comment vous l'expliquez personnellement?
Non, Macron, c'est un élément perturbateur qui arrive comme ça sur le... depuis 2 ans, mais il y a un gros problème de précarité, il y a un gros problème de misère sociale et d'exclusion sur beaucoup de territoires en France. Et c'est depuis, une trentaine d'années, facilement, et qu'il y a une... Lorsque Brice évoque une désaffiliation, de l'engagement partisan, où les gens sont éloignés petit à petit des partis politiques, des syndicats, bon, bah ça c'est pas depuis 2 ans, c'est depuis très longtemps. Et qu'il y a effectivement, on a retrouvé sur ce rond-point ces gens qui sont exclus du jeu politique local et national. et le droit à la parole n'est pas pour tous. Et effectivement, vous parlez de l'open prolétariat, mais alors, aux États-Unis, ils parlaient d'underclass ou de sous-prolétariat. Mais bon, on a quand même, voilà, on a quand même retrouvé des gens qui sont issus de différentes fractions des classes populaires. Donc il y a des gens effectivement qui sont vraiment dans des formes de grande précarité. Et puis il y a aussi certains ouvriers qui sont entre guillemets qui sont aussi établis quoi. Et donc il y a eu certaines jonctions quand même entre
une convergence.
Convergence non, mais il y a eu, enfin là pour le coup on a retrouvé des gens issus de milieux populaires qui viennent pour le coup de différents sous-groupes quoi. Et ça a pris quoi.
On va faire une courte pause musicale. On rappelle que vous êtes les auteurs de Justice et Respect, le soulèvement des Gilets jaunes. On est en compagnie de Brice Le Gall et de Thibaut Ciseau. D'ailleurs, vous serez, je crois, en dédicace, si je ne dis pas de bêtises, le 18 décembre. Ça sera à Beauvais, ça sera à la médiathèque du centre-ville. Et également, le soir, il y aura un petit apéro au chaudron.
Ouais.
C'est ça. On écoute tout de suite Ludwig von 88 et le titre, c'est En avant dans le mur.
Serions-nous inconscients pour ne pas soutenir tous ces grands présidents si prompts à nous servir? Serions-nous des crétins qui pigent rien à la vie pour oser nous dresser contre l'économie? Tous, tous, en avant dans le mur, en marche pour le grand capital. N'avons-nous point d'éthique pour exiger le SMIC pour un boulot de chien abattu sous la trique, privant nos gras patrons qui galèrent comme des dingues à redresser la nation et l'économie qu'ils flinguent? Tous, tous, en avant dans le mur, en marche pour le gros capital. Serions-nous des malfrats pour partir aux Seychelles avec le RSA qui nous tombe du ciel? Serions-nous des crétins pour payer nos impôts plutôt que d'aller fleurir les paradis fiscaux? Tous, tous, en avant dans le mur, en marche pour le gros capital. Nous libère, il fait de nous des hommes. L'esclavage rend heureux, il donne sens à la vie. L'avenir nous tend la main, nous marchons plein d'espoir. Petit mouton crédule qu'on mène à l'abattoir. Le travail nous libère, il fait de nous des hommes. L'esclavage rend heureux, il donne sens à la vie. Le travail nous libère, il fait de nous des hommes. L'esclavage rend heureux, il donne sens à la vie.
Ludwig von 88 sur les ondes de Graphite 94.9, www.graphite.net. On parle toujours de ce livre, Justice et Respect, le soulèvement des Gilets jaunes, en compagnie de Brice et Thibaut pour parler de sortie de ce bouquin. Il est sorti quand, du coup, le livre, officiellement? Comment ça se passe pour ce genre de sortie? Puisque là, vous êtes venu à Compiègne faire une séance de dédicace vente. Vous serez à Beauvais le 18. Vous êtes obligé, c'est un peu vous qui prenez votre bâton de pèlerin et puis qui allez travailler sur toute la ville.
Ouais, pour le coup, voilà, on fait le tour de l'Oise, parce qu'on voulait que les Gilets jaunes de l'Oise soient les premiers à avoir le livre. Donc on a fait cette avant-première à Compiègne.
Ah, c'est une avant-première à Compiègne.
C'était une avant-première. Alors la sortie officielle, c'était le 5 décembre, je crois. Et donc là, oui, bah, on fait le tour de la Picardie pour...
Avant les fêtes.
Avant les fêtes, voilà.
Pendant les grèves.
Pendant les grèves, voilà.
Et c'est vrai qu'il n'y a plus de petits endroits où ils se retrouvent aujourd'hui, les Gilets jaunes. Il n'y a plus de cabane, il n'y a plus de point de fixation.
Pour l'Oise, hein, ouais. On va parler de son côté. Dans l'Oise, je sais qu'à Arcy, ils ont refait une cabane sur un terrain privé, et donc chez un monsieur retraité qui était donc très investi dans la cabane au bord de la Nationale. Et donc là, ils ont refait une cabane à Arcy, donc là, ils s'y retrouvent pour certains. Pour les Gilets jaunes de Chevrières, il n'y a plus de lieu, ils se retrouvent sur certaines actions. Là, on a vu que la semaine dernière, avec la manif nationale, ils s'étaient tous retrouvés à Compiègne, et donc le groupe a repris. Après, là, effectivement, il n'y a plus de lieu pour centraliser, pour faire le débat, pour causer, discuter et passer du temps ensemble, effectivement. Oui,
c'est... Là, les ronds-points, c'était un petit peu les places du village avant, dans les anciennes luttes, c'est ça, hein, ça représente un petit peu ça. Pourquoi avoir choisi d'ailleurs les ronds-points, les sorties d'autoroute, les entrées d'autoroute?
Alors, je ne sais pas comment exactement passé, mais en tout cas, c'est une très bonne chose que ce soit fait sur les ronds-points, parce que c'est des lieux relativement neutres, en fait, auxquels tout le monde pouvait s'identifier, auxquels tout le monde pouvait passer. Enfin, c'est beaucoup moins discriminant pour entrer dans un mouvement social qu'un local en centre-ville.
Il y a une porte, bien sûr.
Voilà. Et donc, que ce soit les symboles mobilisés à travers le mouvement, que ce soit le gilet jaune, même le drapeau français, la Marseillaise, ont fonctionné comme des outils est profondément fédérateur, en fait. Et effectivement, une des fonctions du rond-point, ça a été de recréer des solidarités, des sociabilités dans des espaces où elles avaient en partie disparu. Hein. La disparition des cafés, enfin la désertification progressive de ces zones fait que le rond-point était une très très bonne idée pour réussir à refédérer les gens, remobiliser et attirer dans le mouvement des fractions de la population qui habituellement ne participent pas aux mouvements sociaux, en fait. Donc c'était vraiment une très belle invention, cet investissement des ronds-points.
Après, les ronds-points étaient comme aussi ciblés près de certaines sorties d'autoroute. Donc il y avait aussi le rond-point était un moyen aussi d'être très visible par rapport à du monde aussi. Mais sur les actions de blocage, par exemple. À Chevrières, par exemple, ils sont proches de certains locaux de FM Logistique. Il y a la sortie d'autoroute, donc c'est aussi il y a une
stratégie.
Oui, il y a une stratégie derrière, et donc c'est de la pour le coup, voilà, c'est de la politique en pratique qui s'exerce physiquement sur des lieux situés qui sont pas anodins. Comme à Senlis, ils sont pas loin de l'autoroute. C'est un grand rond-point. Il y a beaucoup de passages. C'est l'axe qui fait Crépy, Soissons, tout ça. Donc, comme au Bois-de-Lius, hein, je veux dire, leur cabane était. Ils ont occupé une ancienne station essence désaffectée, mais qui était au bord d'une nationale très fréquentée. Ils n'étaient pas. Enfin, c'est ça. C'est être au milieu de nulle part, mais être au centre des choses, quoi. Donc, au centre des choses, en milieu rural.
Comment ça se passait, les actions? Comment vous avez assisté à la préparation? J'ai vu que la communication était un petit peu cloisonnée et des militants, enfin plutôt des gilets jaunes qui n'avaient pas forcément l'information, qui l'avaient au dernier moment. Comment ça, vous avez pu rentrer dans les réunions de préparation?
Alors, nous, on avait nos contacts formels et informels, en fait, via les gilets jaunes qu'on suivait tout au long du mouvement. Après, c'est sûr que les difficultés de structuration du mouvement sont un obstacle à l'efficacité. Sachant que c'est très difficile, hein, de toute façon, de renverser un gouvernement ou obtenir une meilleure répartition des richesses. Il n'y a pas beaucoup de mouvements sociaux qui y parviennent. Hein. Mais il y a des difficultés structurelles pour organiser le mouvement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des lieux de réunion importants, en fait, hein, qui existent. Il va y avoir une autre assemblée générale à laquelle je pense il faut participer. Il y a une ligue citoyenne qui s'est créée aussi. Il y a des vrais enjeux vraiment autour de la structuration de ces mouvements, d'autant plus que les ronds-points aujourd'hui n'existent plus. Donc les espaces sur lesquels on peut fédérer et rassembler tous les gilets jaunes de l'Oise ne sont pas nombreux, il faut les investir, il me semble. Quoi.
Puis souvent, il faut demander à la mairie ou à quelqu'un qui vous accepte. Quoi.
Oui, voilà, et en plus, les rapports sont manifestement de plus en plus tendus. Enfin, on était à Senlis la dernière fois pour une dédicace. Le patron du bar qui devait nous accueillir a reçu des pressions de la part de la gendarmerie. Enfin bon, là, ils ont tenté une action à Chevrières ce matin. On est passé 2 heures après, il y avait des gendarmes partout. Donc les rapports sont quand même beaucoup plus compliqués aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au début du mouvement. On fait vraiment la chasse aux gilets jaunes. On veut leur tête, et comme on veut la tête des leaders en particulier. Et du coup, ça devient très, très compliqué.
Vous l'avez vu, cette répression au fur et à mesure se mettre en place. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie de la part du gouvernement ou de la part du pouvoir pour casser le mouvement, le diviser?
Ah oui, oui, je pense. Pardon Thibaut, vas-y.
Oui, juste pour ce qu'on disait juste avant, là, sur le fait que petit à petit, la répression s'est mise en route tranquillement. Mais c'est vrai qu'au début du mouvement, en fait, les gendarmes, dans certains endroits, voilà, ils n'avaient pas consigne de faire évacuer parce qu'ils se sont dit, de toute manière, ça va durer un temps. Ils sont là pour un mois ou deux maximum. Et ils vont rentrer tout seuls chez eux.
C'était avant les fêtes.
Ils avaient pas. Ils ont, pour le coup, là, c'est vrai que la particularité de ce mouvement, c'est qu'ils ont, enfin, le pouvoir en place n'a vraiment, sur certains points, n'a rien vu venir, Et notamment ce qu'on disait sur la détermination des gens. Et c'est vrai qu'au départ, on a laissé faire et occuper les ronds-points parce qu'on s'est dit, c'est bien, c'est. Il y a un côté un peu folklorique, et puis ça va mettre un peu d'animation dans les coins. Mais non, en fait, non, c'était pas du tout folklorique. Et ça a duré, ça dure. Et donc, effectivement, la répression est montée en grade petit à petit. Et après, il faut pas confondre la répression qui se fait à Paris le samedi après-midi. Bon, ça, Brice peut en parler. Il était auprès de certaines actions avec l'appareil photo. Et il ne faut pas comparer cette répression et la répression qui s'est passée aussi dans des zones comme Arcy
il y a
aussi une répression personnalisée.
Plus étatique, moins violente. Une autre forme de violence.
Oui, où les gens se retrouvent en situation d'aller au tribunal, de devoir... il y a une répression effectivement... judiciaire qui est invisible. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de gilets jaunes qui se retrouvent dans des situations assez compliquées en ce moment.
Oui, il y a eu plus de 10 000 gardes à vue, c'est ça, dans toute la France.
Ah ouais, 10 000 gardes à vue, 3 000, au moins 3 000 condamnations, un nombre de blessés qu'on connaît. En fait, la répression, elle a vraiment été multiforme, policière, judiciaire et aussi symbolique. Ça, c'est important. Enfin,
médiatique.
Ils n'ont pas arrêté d'être traînés dans la boue par les médias. Enfin, au bout de 15 jours, en fait, ça s'est retourné ils ont tout eu. On leur a rien épargné aux gilets jaunes, On les assimilait à des racistes, des homophobes, des antisémites. Enfin, ils ont vraiment eu la totale. Et ce qui a eu des effets puissants en termes de répression du mouvement, au sens où si peu de monde, on est face à un mouvement paradoxal où qui est à la fois très soutenu par la population. Encore un an après, on a plus d'une majorité de la population française qui se reconnaît dans ce mouvement, qui les soutient. Et en même temps, concrètement, il faut le regarder en face, très peu de monde dans la rue. Parce que notamment la répression policière a eu ses effets primaires, immédiats, qui est de terroriser les gens pour les empêcher de manifester. Donc cette répression, elle a vraiment été multiforme et elle s'est adaptée aussi à la synchronisation, à l'évolution du mouvement au fur et à mesure. Le grand débat, quelque part, c'est une forme de répression symbolique aussi.
C'était leur voler la parole.
Voilà, c'était une façon de leur voler la parole, exactement.
Et est-ce qu'ils n'ont pas créé un peu des super militants en très peu de temps? Parce qu'avant, quand on avait accès à la violence, mais quand on connaissait la violence policière, en général, c'était plutôt des militants. Alors au départ, les manifestations, c'était en cortège, maintenant c'est en début de cortège. Mais est-ce qu'ils n'ont pas créé un petit peu des super militants, des mecs qui se sont mis à manifester et puis d'un coup ils ont découvert la bombe lacrymo, le tonfa, quelque chose que normalement on apprenait beaucoup plus tard en militantisme traditionnel?
Oui, ils ont. Alors certains gilets jaunes ont découvert la violence étatique, la violence policière, physiquement et concrètement. Il y a eu aussi des gilets jaunes qui au départ dans le mouvement étaient extrêmement pacifistes et petit à petit ils ont vu que de manière d'être pacifique ça ne changeait rien et même en étant pacifique on se fait tirer dessus donc effectivement les choses étaient vraiment faites pour que ça on atteigne certains niveaux de violence. Je veux dire, il y a pas de hasard là-dedans et pour le coup la police a a joué un rôle central dans son organisation et dans son changement d'organisation qui s'est fait au cours du mouvement. C'était ce qu'on avait remarqué avec Brice, c'était effectivement d'aller au corps à corps, par exemple. Ça, à partir de mi-décembre, là, on a changé de ton, quoi. Et il y a eu plein de choses qui ont changé petit à petit chaque samedi, quoi.
Oui, ça, c'est un point important, si je peux compléter, en fait. C'est que les professionnels du maintien de l'ordre savent parfaitement fixer le degré de violence dans une manifestation par les dispositifs concrets qu'ils utilisent. Et donc, je pense qu'il y a une complicité objective, en fait, aujourd'hui, entre médias dominants qui ont intérêt aussi à véhiculer et diffuser des images de violence, black bloc ou casseurs, entre guillemets, en fait, parce que le black bloc, c'est pas non plus des personnes bien identifiées, et puis forces de l'ordre, préfets, hein, qui ont intérêt à ce que les choses dégénèrent. Et on a eu une manifestation très claire là, le 16 novembre pour les 1 an du mouvement à Place d'Italie où il y avait tout sur place pour faire dégénérer la manifestation et voilà, essayer de tuer et d'empêcher les gens de manifester jusqu'au bout, quoi. Après, je pense qu'elle a des effets très contrastés sur le mouvement, cette violence. Elle peut solidariser les gens temporairement, mais elle crée surtout beaucoup de divisions, je pense, au niveau des stratégies à suivre ensuite. Et donc, elle a son efficacité, oui, pour nuire au mouvement.
Ça a créé des nouveaux autonomes un petit peu. Avant, il y avait des autonomes dans les manifestations, en général plutôt des anarchistes. Oui, mais est-ce que ça a créé une nouvelle forme d'autonomie ?
Non, enfin, ça... Ce qui est... Là, Brice évoque le 16 novembre à Place d'Italie. Et c'est vrai que c'est un exemple assez terrible où on voit très bien que tout a été fait pour que ça dégénère. Et notamment, alors il y a cette violence physique, mais c'est vrai qu'il y a aussi, on parlait de la violence médiatique, mais par exemple, le 16 et 17 novembre, voilà, on a entendu par des journalistes en plateau télé le mot d'ultra jaune qui est revenu. Voilà, il y a tout un discours pareil qui lui aussi est mouvant. Hein, et donc la violence policière change et le discours médiatique change aussi et c'est une réalité mouvante ça et c'est ça qui est aussi dur à combattre. Et donc il y a des nouveaux mots qui arrivent et ces mots-là aussi il faut savoir les maîtriser, il faut savoir comment les identifier. Et rien que le terme d'ultra jaune, voilà, c'est ça. Il y a les black blocs, maintenant il y a les ultra jaunes et puis il y a ceux qui sont entre et on crée aussi comme ça par le discours des groupes et des groupuscules en fait qui oui ça enfin ça change rien, mais c'est comme dit Brice, ça participe aussi à des divisions internes. Quoi.
Oui, moi, j'ai pas le sentiment que ça ait radicalisé beaucoup de gilets jaunes, cette violence. Oui. En tout cas, parmi les gens qu'on a suivis, il y en a peu qui sont transformés en black bloc. Quoi.
Non, pas forcément dans le sens d'aller casser des choses ou changer de choses, pas dans cette pratique politique-là, mais plutôt dans le sens où, en fait, maintenant, la lacrymo et le tonfa, en général, quand on le voit à la télé, il fait peur. Ouais. Là, en fait, ils en ont plus peur, quoi.
Ouais.
Ils sont résilients, ils savent s'organiser pour.
Peut-être. Je sais pas en fait. Je sais pas.
Oui.
J'avais pas vu les choses comme ça. Ouais. En un sens, oui, il y a sans doute une espèce de banalisation de ces usages-là qui fait que, bon, c'est vrai, on connaît des nanas, là, elles ont pas peur, elles sont en première ligne, alors que c'est leur premier mouvement social. Jamais elles se seraient confrontées à des situations qui sont presque des situations de guerre, en fait. Hein, c'est ça l'enjeu.
On voit aussi sur les handicapés, on voit des manifs, des gens en fauteuil, des gens avec des béquilles, c'est des choses que dans le mouvement traditionnel militant, on n'a pas forcément.
Même au début du mois, là, par exemple, vous parlez des handicapés, mais ce qu'on disait au début de l'émission, tous ces gens mis de côté, précarisés, dont on ne voit pas, dont la parole ne compte pas, et donc il y a beaucoup d'handicapés. Et effectivement, dans ce mouvement social, on retrouve beaucoup, beaucoup d'handicapés qui ont une pension de misère et qui justement commencent à... C'est pas parce qu'ils sont en fauteuil qu'ils peuvent pas causer et ouvrir leur gueule, quoi. Et donc effectivement on retrouve une population qui va pas dans la rue d'habitude, hein, c'est clair. Et donc les handicapés sont là. Mais juste sur la répression en manifestation, la première manifestation qu'il y a eu il y a 15 jours là sur les retraites à Paris avec les syndicats. Bon, c'est la manifestation, vu comment elle est organisée, c'est nassé de partout, quoi. Et ça, ça a changé aussi. Et depuis le mouvement des Gilets jaunes, on n'avait pas vu ça depuis très, très longtemps. Il y a des nassages partout, toutes les petites rues. On ne peut pas sortir quand on veut de la manifestation. On ne peut même pas y rentrer où on veut, quoi. Je veux dire, donc, y a tout ça, c'est très, très violent et ça met une atmosphère assez... qu'on avait oublié ou qu'on ne connaissait plus, quoi.
C'est pas aussi efficace que les Allemands qui font 2 rangées de flics de chaque côté du cortège Est-ce que du coup, parce qu'en gros en Allemagne c'est un peu ça, les cortèges ils sont, c'est un peu l'effet de la tortue quoi, c'est-à-dire qu'il y a les manifestants et de chaque côté il y a un ou deux gardes mobiles de chaque côté qui accompagnent les cortèges.
Alors ça c'est pas le pire des dispositifs, au contraire, je pense que c'est un bon dispositif pour contenir la violence en fait. C'est-à-dire une tête de cortège qui est encadrée, et sachant que 90% des gens derrière ils veulent pas en découdre avec la police, ils veulent manifester tranquillement. Je pense que ça c'est un dispositif qu'on a vu de temps en temps en place et qui est efficace en fait, qui est efficace pour contrôler quoi.
La rencontre avec les syndicats et les syndiqués, est-ce que ils ont fait un peu le distinguo entre les syndicats, les organes militantes et les syndiqués. Est-ce que ça a pris dans l'Oise ?
Bah, difficilement, je pense. Ouais. C'est à l'image de ce qui s'est passé au niveau national que les gilets jaunes ont été peu soutenus. Hein. C'est pas à peine de raconter des histoires sur la convergence. Ils ont été peu soutenus par les syndicats, par le mouvement social traditionnel, par les intellectuels.
Pourquoi ? Parce qu'ils les comprenaient pas ou...
Pour plein de raisons, je pense. Enfin, très très compliqué. Enfin, pour des raisons. Enfin, déjà, ils étaient de fait objectivement en concurrence. Enfin, par leurs revendications, leur mode de fonctionnement offensif. Enfin, les revendications offensives des gilets jaunes. Ils ont obtenu des choses quand même assez rapidement que n'ont pas eu les syndicats. Donc, il y a une espèce de défiance et de monopole, de prétention au monopole du syndicat. À organiser et à obtenir des acquis sociaux. Et après, sans doute qu'au niveau du fonctionnement du syndicalisme et du mouvement associatif actuel, il y a un manque d'ancrage enfin, dans le pays, un manque d'ancrage réel dans le pays. Enfin, quand on regarde le profil des adhérents de la CGT, c'est des gens qui aujourd'hui sont dans des situations beaucoup plus confortables que ne le sont les gilets jaunes, en fait, qui encore une fois touchent des personnes qui sont des précaires, des travailleurs pauvres. Donc il y a plein de raisons. Il y avait une hostilité aussi de certains gilets jaunes au syndicat, mais je pense qu'on aurait tendance là aussi à les survaloriser pour expliquer le manque de convergence. Je pense que ça. Il y a surtout un décalage entre ces univers et voilà. Bon.
Est-ce que du coup les militants d'extrême gauche ont essayé de politiser un petit peu le mouvement ? Est-ce qu'il y a eu des doctrines qui ont essayé d'être insufflées ?
Après, nous, ce qu'on a observé et notre terrain d'enquête, nous, on n'a pas vu des gens d'extrême gauche infiltrés ou politiser les choses. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas besoin... Les gilets jaunes eux-mêmes ont fait de la politique et l'ont très bien fait à certains moments. Donc il n'y avait pas du tout besoin d'un militant d'extrême gauche pour planter un drapeau rouge.
Non, mais ça pouvait être pour les former politiquement sur du marxisme expliquer un peu la politique, faire des sections de formation ou j'en sais pas.
Oui, c'est très intéressant. En fait. Je pense qu'il y a des militants, notamment de la France Insoumise, qui étaient présents, sans faire de l'entrisme pro-organisation, mais qui se sentaient subjectivement concernés par ce mouvement et qui allaient combattre avec les gilets jaunes, qui sont descendus en fait. Ça reste marginal, mais en tout cas, la notamment était représenté, était sur les ronds-points, on en a rencontré. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que pour une majorité de gilets jaunes, la politique prend pas la forme d'un discours plus ou moins mondain sur la critique du capitalisme. Mais voilà, il y a des enjeux pratiques d'amélioration de ses conditions d'existence, de ses conditions de vie. Et donc finalement, l'absence relative de discours militant idéologisé tel qu'on le connaît dans les milieux parisiens ou dans les groupuscules militants, était plutôt une chance pour le mouvement, en fait. Était plutôt une chance au sens où ça n'a pas fait fuir tout de suite ces personnes-là. Voilà ce que je pense important de souligner. C'est qu'il y a une violence symbolique à travers le langage, à travers le discours des militants, dont ils ne se rendent pas forcément compte et qui a des effets profondément contre-productifs. Et là, ça a été neutralisé en partie.
Vous serez le 18 décembre à Beauvais, à la médiathèque, au centre-ville, c'est 3 cours des lettres, et ensuite à 20h, donc ça c'est à 18h, 18h, 19h30, et ensuite à 20h, il y aura un verre de l'amitié au Chaudron, 6 places de l'hôtel Dieu, et tout de suite on écoute un extrait musical, on se retrouve juste après, et j'ai choisi Didier Super avec le morceau Gauche-Droite.
Ouais, et les mecs, vous avez pas autre chose comme intro, là, parce que à force, ça saoule, hein, non ? À droite, on n'aime pas trop partager, on préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. À droite, On pense que sur la planète, la vie n'est pas possible sans la bourse.
À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de meilleure idée. C'est peut-être pour ça qu'on en conclut que la planète est déjà foutue.
À droite, on pense que si la planète craque, eh ben c'est de sa faute, elle avait qu'à être plus solide.
À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a toujours pas d'idée. Sauf que maintenant qu'on a le pouvoir, ça serait bien qu'on en ait une.
À droite, on s'en fout d'être malheureux, l'important c'est d'être riche.
À gauche, nous on s'en fout du fric, l'important c'est de rien foutre.
À droite on n'aime pas trop les Arabes et les Noirs,
tant mieux comme ça. À gauche, nous on les récupère.
À droite c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses.
À gauche on apprend à apprécier la beauté intérieure.
À droite, on pense que les pédophiles, il faut leur couper les couilles à eux et à toute leur famille.
À gauche, on prend la peine de se demander si dans certains cas, ils seraient pas juste amoureux.
À gauche, on est content de donner des petites pièces à des clochards, et comme ça, grâce à nous, ils meurent plus lentement.
À droite, on aimerait tant que les clochards soient rentables, par exemple en vendant leurs cadavres aux usines de saucisses.
À droite, on pense que les chômeurs, ils devraient pas fumer, ça donne le cancer, et le cancer, il faut l'interdire à ceux qui peuvent pas se payer eux-mêmes leur chimio et leur perruque.
À gauche, on pense que le cancer, ça doit être accessible à tous.
Voilà, disait Suspect sur les ondes de Graphite 94.9. Si vous venez de prendre l'émission en cours de route, on parle du livre Justice et Respect, le soulèvement des Gilets jaunes. C'est réalisé, ou plutôt écrit et produit par Brice Le Gall, Lou Traverse et Thibaut Ciseaux. Brice et Thibaut qui sont avec nous au studio. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des. Vous avez vu des artistes venir rejoindre le mouvement? Est-ce que vous avez croisé. On a vu Nekfeu, par exemple, sur la dernière manifestation.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a.
C'était vraiment lui?
C'était vraiment. Ouais, c'était vraiment Nekfeu.
Ah, d'accord, j'ai regardé la photo et j'ai.
Non, c'était vraiment lui. Il avait déjà fait en fait avec Nuit Debout, il avait déjà chanté sur un camion pendant les.
Ouais, ça j'étais au courant.
Pendant Nuit Debout, donc ouais, c'est quelque chose qui suit assez régulièrement apparemment.
Voilà, là aussi, je pense que le soutien des artistes a été très faible, enfin, comme celui des intellectuels, et on ne peut que le déplorer. Après, il y a des artistes engagés qui sont venus sur les ronds-points, notamment au Bois de Lius. On a eu la compagnie Jolie Môme qui est passée,
faire
une représentation voilà, gratuitement, ce qui a été un vrai plaisir enfin, pour les personnes présentes qui ne sont pas habituées non plus forcément à ces formes d'expression culturelle. Et donc, il y en a quelques-uns, heureusement. Quoi.
Parce que souvent, on dit la lucha et fiesta, la lutte et la fête, donc il fallait un petit peu.
Ouais. C'était très beau.
Ça s'est passé comment cette fête-là qu'ils ont fait au Bois de Lius?
Alors, c'était en soutien justement au campement, en fait, hein, à la cabane qui était menacée de destruction, qui est une des dernières cabanes de l'Oise à avoir tenu. Et je ne sais pas trop comment ça a été organisé.
Vous étiez, vous?
Mais nous, on y était. Il y a quelques images dans le bouquin, pour le coup, sur cette belle fête.
C'est Vincent qui a eu des... Il y a quelqu'un du Bois de Lius qui est en contact avec la compagnie de Montreuil, ce qu'il m'avait dit.
Vous avez vu le film Je veux du soleil, par exemple? Est-ce que vous avez suivi cette...
Oui.
Est-ce que vous avez vu des choses qu'on revoit dans le documentaire? Est-ce que vous avez vu la même vision, en fait, entre ce que François Ruffin a été filmé, enfin plutôt Gilles Perret? Est-ce que vous avez vu, ou est-ce que chaque point de comment ça s'appelle, chaque camp était vraiment différent dans son fonctionnement?
Nous on a vu des choses assez différentes hein, sur chaque rond-point, tant sur l'organisation que sur le public aussi. Le film de Ruffin, il peut pas faire un film de 3h30, c'est normal. Donc on passe vite fait de personne en personne. Donc c'est sûr qu'on... Bon, c'est pas fait pour comprendre la trajectoire de chaque personne qui est interviewée, c'est sûr. On retrouve une atmosphère, effectivement, une atmosphère de lutte, de tenir le rond-point et de cette France un peu invisible, pour le coup. Et c'est ce qu'a voulu montrer Ruffin et Perret. Ils ont voulu vraiment, pour le coup, aussi... mettre en avant tous ces gens que l'on voit pas quoi. Nous c'est vrai que c'est un travail au long cours où on pour le coup on est rentré vraiment dans la vie intime de certains gilets jaunes.
Vous étiez chez eux pour les interviewer?
Voilà, on a été chez eux, on a passé du temps avec eux, on a mangé avec eux, puis c'est des gens, une fois qu'on a été chez eux, on les a après revus. Il y a eu des liens incessants pendant l'enquête, et puis encore aujourd'hui on est encore en contact avec eux d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qu'on se disait avec Brice, c'est vrai que nous, on a fait ce boulot et en même temps, on fait aussi de la restitution de ce travail avec eux, quoi. Et c'est là que aussi, c'est encore un autre travail. Et c'est vrai que des fois, pour nous, c'est pas évident et parce que on cause après effectivement du produit fini avec eux et de. Alors, on a des retours très positifs. Hein, les gens sont contents, mais en même temps, bon bah voilà, des fois. On nous dit, voilà, ça s'est pas passé comme ça, j'ai pas dit ça. À un moment donné, vous dites ça, mais non, c'est faux, c'est pas moi, c'est une autre personne. Donc, et nous, effectivement, là, c'est... Bon, après, nous, on veut bien le faire. Hein, et c'est vrai que c'est pas évident. Et là, on est dans un autre travail encore où parler du mouvement social qui se fait, qui s'est fait et avec eux, et c'est encore, encore autre chose.
Après, juste la quête de justice et de respectabilité, en fait, qu'on retrouve dans le film de Ruffin, nous semble tout à fait central, en fait. De ce point de vue-là, c'est très bien vu. Nous, c'est ce qu'on voit, en fait. Hein. C'est des gens qui se soulèvent pour gagner leur droit à l'existence et à la dignité, quoi. C'est important de le souligner, et ça, je pense que c'est bien retranscrit dans le documentaire de Ruffin.
Il y a quelques temps, il y a eu l'anniversaire de mai 68 avec plein de photos, plein de rétrospectives. Mmh. Est-ce que vous pensez que vos photos vont faire partie de la rétrospective dans 60 ans du mouvement des Gilets jaunes?
J'espère pour Brice.
C'est pas à nous de répondre.
Si dans 30 ans, on fera l'anniversaire à la Bibliothèque nationale de France.
Ouais.
Vous avez identifié des goupilles et puis des des cons bendites dans les Gilets jaunes qui vont retourner leur veste. Et...
c'est une vraie question, ça.
Ouais, mais le goupil, c'est quelque chose de noble, hein, si on s'en tient au goupil.
Le renard.
Voilà, pour moi, c'est très noble, le goupil.
Pas le romain.
Ouais, pas le romain. Donc, non, on n'en a pas vu. Mais ça, c'est, l'histoire le dira. Enfin...
Les politiques, d'ailleurs, c'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée, que j'ai pas, d'ailleurs j'ai posé aux politiques. On en a vu très peu aller les voir sur les ronds-points, même des gens de La République En Marche. Enfin, franchement, moi j'aurais pensé que vu qu'ils sont de la société civile, qu'ils auraient pris leur voiture et qu'ils auraient été au moins les voir, quitte à se faire jeter, mais de faire l'effort d'aller jusque là-bas. Oui. Vous avez vu des politiques venir? Alors il y a des maires qui ont un petit peu filé des coups de main, qui ont prêté des terrains, ce genre de choses. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres politiques un peu plus gros qui sont venus?
Non, je pense que la crainte de la récupération, en fait, a aussi nui et posé des difficultés pour essayer de pour que les Gilets jaunes puissent accumuler les soutiens qui comptent, en fait. Hein. Je pense qu'il y a une des raisons du manque de résultats, enfin pour l'instant du mouvement, c'est que ils ont été dans l'incapacité d'accumuler les soutiens qui comptent, notamment les soutiens politiques, syndicaux, et encore aujourd'hui, ça semble extrêmement compliqué. Et la crainte de la récupération a dû jouer très fortement sous ce rapport-là.
Sans prendre de récupération, mais juste au moins se faire une vision de ses propres yeux et de ne pas aller regarder la télévision.
Au tout début du mouvement, des politiques se sont déplacés, mais ils ont vite compris qu'ils étaient, un, pas les bienvenus, et deux, il y avait une distance sociale énorme entre eux et la réalité des choses. En fait, quand des gens comme Dupont-Aignan, Wauquiez vont sur les ronds-points, ils ont vite rendu compte qu'ils n'étaient pas à leur place. Bon,
Wauquiez, il a dit qu'il n'avait jamais mis de gilet jaune.
Il a oublié.
Il a oublié, mais ces gens-là ont des problèmes de mémoire. C'est dommage. Parce que même Philippot aussi, il a oublié. Philippot, quand il a mis son gilet jaune sur son costard, il a vu que ça lui allait pas, quoi. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça. Et ils sont beaucoup.
Marine Le Pen aussi, d'ailleurs, a oublié. Enfin, du moins, n'a pas soutenu l'amnistie des gilets jaunes.
Voilà.
Alors qu'elle entendait soutenir le mouvement au début, quoi.
Voilà. Donc.
Vous avez envoyé votre livre à des. Je sais pas, au président, par exemple?
Ah non. Non, en fait, on est très limité en service de presse. Voilà. L'enquête nous a coûté très cher. On gagne très très peu d'argent sur le livre pour éponger nos dettes. Donc non, on n'a pas perdu notre temps en envoyant un Macron. Je pense qu'il ne nous aurait pas répondu.
Puis si on a un livre à filer, on a des contacts avec des gens qui seraient très contents pour l'avoir et qui peuvent
préfère
le payer.
L'offrir aux Gilets jaunes.
Ouais, on préfère l'offrir ou alors...
La BNF, ce genre de choses, pour que là le bouquin soit archivé dans des... trucs un peu
des trucs classes,
que ça reste dans l'histoire. Comment ça se passe quand on sort un livre? Est-ce qu'on doit envoyer à la BNF pendant trois exemplaires ou ce genre de choses? Non, pas du tout.
Ça c'est du ressort des documentalistes, hein.
D'accord,
c'est eux qui choisissent.
Et puis
la BNF, ça doit être encore particulier, ça doit être considéré comme les choses d'utilité publique, enfin nécessaire pour après là on essaye de le faire commander par des bibliothèques universitaires, enfin on n'a pas complètement on est sollicité dans certaines facs pour faire des présentations et voilà, certaines facs, notamment celle de Limoges, pourraient peut-être
C'est un livre qui est aussi commandé dans les médiathèques et les bibliothèques départementales dans certains départements.
Comment on vit en tant qu'auteur pendant les Les un an d'enquête, on vit comme les gilets jaunes avec 500 euros par mois et puis.
Oui, là, d'autant plus que c'était même avant le mouvement. Enfin, on a ça en commun, hein, Lou, Thibaut et moi, de vivre avec 500 balles par mois. Et donc c'est pas facile, quoi. D'autant que là, voilà, oui, on a eu des coûts importants tout au long de cette enquête, quoi.
Là, l'éditeur, c'est vous qui avez financé l'édition ou l'éditeur a mis une partie d'argent ?
L'éditeur a fait une chose, au moins bien, c'est elle a payé la facture de l'imprimeur, quoi.
Il y a combien d'exemplaires qui sont aujourd'hui édités ?
1200.
Et vous pensez déjà refaire une deuxième ? Il y a combien qui sont partis pour le moment ? Remarque, il n'est pas sorti il n'y a pas très longtemps.
Il est sorti depuis une semaine et demie, en fait. Hein. On ne sait pas les chiffres, en fait. Il faudrait demander à notre éditeur.
En tout cas, il fait 224 pages. C'est un très beau cadeau pour les fêtes de Noël. Hein. C'est à mettre sous le sapin, évidemment. On rappelle le nom, c'est Justice et Respect, le soulèvement des gilets jaunes avec Brice Le Gall, Lou Traverse et Thibaut Ciseaux. Du coup, Lou, c'est une fille ou un garçon ?
C'est une fille, Lou.
Oui. Et, alors, est-ce qu'elle a vu le mouvement différemment ? Est-ce qu'on voit le mouvement différemment de...
Alors, Lou a été très importante parce qu'elle nous accompagnait pas forcément sur le terrain. Et donc, elle a beaucoup bossé sur les portraits, les entretiens, les données en fait, qu'on ramenait. Et à notre différence, c'est sans doute celle qui était le plus à distance pour essayer d'objectiver, de comprendre ce qu'il y avait en jeu.
D'avoir moins d'empathie avec les gilets jaunes, peut-être ?
Pas forcément l'empathie. Le manque d'empathie serait péjoratif, ce qu'il en faut forcément en fait, pour enquêter. Mais en même temps, il faut aussi réussir à se défaire un petit peu de tout ce qui nous lie. Et nous, on se sentait très, très liés à ces personnes hein, qui nous faisaient confiance, qui nous ouvraient leurs portes. Et donc, la distance un peu objectiviste, objectivante, entre guillemets, est nécessaire. Quoi. Je pense que sans elle, pour le coup, on aurait... Le livre n'existerait pas sous cette forme, voire n'existerait pas. Quoi. Et elle a aussi beaucoup rédigé, en fait.
Vous avez des contacts avec d'autres personnes qui ont fait un peu le même travail que vous sur d'autres territoires, dans le sud de la France, en Bretagne ou dans l'Est ?
Oui, on a beaucoup échangé avec des collègues aussi et qui bossent sur le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'étais souvent en contact avec Sylvain Bordiek, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, et qui travaille sur un rond-point... près de Bordeaux, en périphérie. Et donc, oui, il y a des choses qui se font et des gens qui travaillent un peu comme nous. Donc, il y a Sylvain Bordiac à Bordeaux, il y a Benoît Coquard qui est vers Dijon. Donc, on a échangé aussi avec ces gens-là, oui, pour aussi essayer de croiser nos données que l'on pouvait produire. Et bon, il s'est avéré qu'effectivement, on était plusieurs à voir aussi des choses très similaires à différents endroits un peu partout en France. Quoi.
La perspective est assez différente. Quoi. C'est plus des perspectives académiques. Nous, on ne le conçoit pas comme un produit académique universitaire. Et puis, il y a une alliance photographie et sociologie. Quoi.
Ça aurait été quoi la différence, un côté plus académique ? Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas eu dans le bouquin ?
Là, vous avez, au mois de janvier, là, vous avez un truc à Sciences Po Paris sur les gilets jaunes. Par exemple, ils font une analyse du grand débat, des contributeurs au grand débat, un truc très statistique. Ça prend des... Et puis surtout, c'est restitué dans un langage enfin, qui est totalement inaccessible enfin, et qui n'a pas de finalité politique, enfin, qui n'entend pas rendre aux gilets jaunes. Donc nous, c'est vrai qu'on est dans une perspective radicalement différente de ce point de vue-là.
Thibaut, ta thèse, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu es en train de faire une thèse sur quoi ?
J'ai travaillé sur les bassins industriels liés à la métallurgie. Et donc j'ai travaillé sur les trajectoires scolaires et sociales des enfants d'ouvriers.
Sur quoi ? Sur l'est de la France ?
J'étais sur l'est de la France, en Bourgogne, un peu sur le nord. Et j'ai observé et analysé comment, qui reste sur place et qui s'en va. Donc comment les enfants de cadre par l'école peuvent migrer
ville, ouais.
Et comment les enfants d'ouvriers sont contraints à rester sur place avec un système scolaire qui est fait aussi pour rester sur place.
Ouais, la reproduction sociale, quoi.
Voilà, tout à fait.
Et toi, Brice, c'était quoi ton sujet de moment ?
Moi, ça fait 15 ans que j'ai commencé cette chose.
Il n'est pas fini encore ?
Non, elle n'est pas terminée, en fait, pour le mois de juin prochain. Donc là, il va falloir se remettre au travail académique. Moi, je travaille sur l'enseignement de l'économie et de la gestion, enfin, sur la façon dont les facs d'économie sont transformées en business school pour les pauvres. Et la façon dont le savoir critique est progressivement évacué du monde universitaire, parce que même là-bas, il est menacé, en fait.
Voilà. Et vos suiveurs de thèse, ils l'ont vu comment ? Que vous avez mis un an de votre vie de côté ?
Alors moi, ils m'ont incité à le faire, en fait. Ils m'ont incité à le faire, parce que pour eux, c'est important d'essayer d'être un peu utile politiquement, pour peu que ce soit possible avec des livres. Quoi. Voilà.
Moi, j'ai plus de suiveurs de thèse. je suis là, mais je suis dans le troupeau. Mais j'ai plus de suiveurs de thèse. Mais oui, comme on dit, hein, juin où j'arrête, quoi. Donc, on verra.
Et Lou, qui est pas là, c'était quoi sa thèse?
Alors Lou, elle bossait sur les classes d'éducation musique, les options musique dans les voilà les CHAM. En fait, elle bossait sur la petite bourgeoisie culturelle et ses usages du système scolaire, la façon dont elle, dont ces fractions de classe parviennent à contourner le système pour se reproduire comme il faut.
Ouais, quoi. C'est de prendre l'option latin et l'option grec pour voilà, pouvoir être dans une bonne classe.
Voilà,
quoi.
Ce genre de choses, quoi. Voilà.
On rappelle le livre Justice et respect, le soulèvement des gilets jaunes aux éditions Sileps. Il fait 224 pages, achetez-le, courez l'acheter. Il est disponible à la librairie des Signes, il est au prix de 24€. Est-ce qu'on peut vous l'acheter directement
25, je crois.
25€ ouais. À la librairie des Signes, c'est ça 25€ à la librairie.
Partout. Okay. À ma connaissance, partout.
La fois que j'avais, c'était 24€, mais ok, pardon. 25€. Et là, on peut vous l'acheter directement. Est-ce qu'on peut vous le commander? Comment ça se déroule? On peut le retrouver peut-être sur Internet?
Alors, les personnes sur Paris peuvent venir me voir pour le prendre directement. Nous, ça nous aide énormément financièrement de nous le prendre directement. Et après, dans l'Oise, en fait, il faut essayer de nous intercepter quand on est de passage. Donc, Beauvais, effectivement, ce serait l'idéal.
Beauvais, le 18 décembre à 18h à la médiathèque du centre-ville. 3 cours des lettres et ensuite à 20h au Chaudron, à 6 places de l'Hôtel Dieu. Et vous en avez combien dans la voiture là? Parce que c'est lourd en plus cet objet là. Vous allez défoncer votre voiture?
Non, mais j'ai un utilitaire.
D'accord, ok.
Donc, j'avais senti le coup venir. Donc,
avec une palette posée à l'intérieur?
Oui, oui. Puis si j'ai, c'est un utilitaire de chantier, donc je peux mettre j'ai des très bons
amortisseurs
à l'arrière surélevés, donc je peux rentrer beaucoup de livres.
Il transporte le bois pour l'hiver aussi pour qu'on puisse se chauffer.
Voilà, je fais tout avec et il y a des bouquins et du bois derrière, donc il y a pas de problème.
Bah merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Et puis vous étiez donc hier à l'heure où on enregistre cette émission. Vous serez également sur RVM. C'est une émission en direct ou c'est une émission enregistrée, vous savez?
Enregistrée.
Donc vous pourrez également les écouter sur RVM, la radio de Crépy-en-Valois. Merci beaucoup, messieurs. Et puis à très bientôt.
Merci, Brian.
Et puis n'oubliez pas, si vous avez pris l'émission en cours de route, www.graphite.net. Et également, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter. Et aussi, on a un appel aux dons jusqu'au 25 ou peut-être jusqu'au 30 décembre. Allez faire un tour sur la page de la radio. À bientôt, bonne journée, puis bonnes vacances en tout cas.